Naviguons à vue avec Chauffer Renouvelable, le programme de Suisse Énergie. Naviguons à vue. Avec Marc Muller et Jonas Schneider sur la première.
Bonjour à toutes et tous, bonjour Marc.
Salut.
Est-ce que tu es content de tes conditions de travail ?
Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Certaines libertés.
Les collègues, ouais. La qualité des collègues.
Les collègues sont un peu pénibles, mais sinon ça va. Et ben vous, que vous rentriez chez vous depuis votre bureau, ou alors que vous quittiez votre bureau pour aller dans votre salon pour changer de pièce, nul doute que cette émission va vous interpeller. Car on va discuter de bien-être au travail. Le travail a beaucoup changé ces dernières semaines avec le coronavirus, hein, télétravail, etc. Mais qu'on soit derrière son ordinateur à la maison, derrière en plexiglas dans un commerce ou au sein d'une entreprise qui a rouvert ses bureaux, il y a une question qu'on se pose tous. Comment est-ce que je me sens émotionnellement dans mon emploi ? Personne ne libère son potentiel, sa créativité ou son envie de participer à un projet commun s'il se sent pas à l'aise dans son travail, c'est bien naturel. Résoudre cette équation du bien-être, c'est pas si simple et c'est pourtant une discipline des plus sérieuses qui pourrait bien grandir encore après le coronavirus.
Agnès Gray et Damien Tellin, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Jonas.
Vous avez fondé DAG, on en parlait à l'instant avec Marc. Cette crise sanitaire nous a d'abord poussé à repenser notre modèle de travail, la manière dont on travaille, que ce soit davantage par télétravail, que ce soit en coworking, que ce soit au bureau, ça c'est géographique, mais peut-être aussi l'organisation de notre travail, de nos équipes. Et alors vous, votre thèse, c'est que le bonheur permet d'être plus performant, que le bonheur devrait être l'argument, le but qui guide toutes les équipes de travail.
Ouais, alors au-delà du bonheur, le but c'est d'abord l'épanouissement de l'individu par son travail et sur son lieu de travail. Et ce que nous a indiqué cette crise et cette période un peu particulière qu'on vient de vivre, c'est que finalement le lieu de travail compte beaucoup dans l'épanouissement de l'individu et que le télétravail peut être une forme d'épanouissement pour certains des travailleurs en Suisse. Mais c'est pas forcément une
performance positive. On fait de la permaculture dans l'environnement organisationnel, c'est-à-dire qu'on va travailler le terrain et la culture d'une manière un peu différente pour mettre en place un système qui favorisera l'épanouissement des collaborateurs et des employés de manière générale. Mais c'est comme la permaculture, ça peut prendre du temps à mettre en place. On peut au début se dire ouais, c'est compliqué, on n'a pas envie. Mais sur le long terme, ça va favoriser la performance et la productivité aussi.
Quand vous dites le télétravail a des limites, c'est pas forcément la panacée, c'est bien, mais c'est pas forcément idéal. Quels sont les principaux défauts du télétravail ? Parce que ça semble quand même être une solution à la fois écologique, à la fois économique, qui se profile et qui pourrait bien s'imposer ces prochains mois.
Oui, mais il y a certains défauts aussi, c'est sûr. Enfin, nous, c'est ce qu'on observe en tout cas chez nos clients et les différentes entreprises qu'on accompagne. Il y en a une qui paraît peut-être pas tout de suite à l'esprit, mais qui est la plus frappante. On l'a beaucoup vu avec les écoliers. Ça favorise aussi certaines inégalités. C'est-à-dire que, on n'a pas tous un bureau dans son appartement. On n'a pas tous un espace qui est calme, qui est serein pour travailler comme on aurait fait dans notre environnement professionnel.
Est-ce qu'on se laisse dépasser davantage aussi en télétravail ? On se laisse déborder ? Il y a peut-être un risque de burn-out qui serait plus élevé ?
La question du burn-out, elle est, je crois qu'elle est d'abord inhérente au rythme de travail. Un des risques qu'on perçoit aussi, ou en tout cas duquel on a été témoin, c'est que finalement, il y a certaines relations de travail qui sont avant tout sociales et qu'il est important de préserver. Par exemple, si on prend l'exemple du départ en retraite d'un collaborateur, et ben c'est quelque chose qui marque émotionnellement une personne parce qu'elle arrive au bout d'une étape de sa vie. Et c'est des choses qui typiquement ne peuvent pas être faites, ou en tout cas sont mal vécues. L'accueil d'un nouveau collaborateur, c'est quelque chose qui est important. La personne a besoin de s'inscrire dans une nouvelle réalité, dans un nouveau poste, dans une nouvelle culture. Et c'est une des choses, parmi d'autres, qui peuvent être plutôt mal vécues durant des périodes dans lesquelles le télétravail est imposé.
Vous dites le monde du travail, c'est un peu comme la permaculture. On met en place les bonnes conditions et ensuite, il faut laisser un petit peu faire. Quels sont les outils qu'on retrouve entre vos techniques de travail et la permaculture ?
Alors nous, la première chose, c'est qu'on accompagne les organisations et les individus sur une notion de responsabilisation. Et ça, finalement, c'est ce qu'on fait avec la nature, l'environnement, à l'écosystème. Et là, on se dit, si on partait sur un système de, on commence par faire confiance aux gens, par faire confiance à l'organisation, à l'individu, qu'est-ce que ça donne? Donc ça, je pense, c'est le premier outil, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la notion de responsabilisation, de se responsabiliser et de faire confiance.
Après, dans les outils avec lesquels on pourrait faire le parallèle, en permaculture, on insiste beaucoup sur capitaliser sur les ressources qui sont à disposition, ou en tout cas dans l'environnement, de l'environnement dans lequel on évolue, avant de se focaliser sur améliorer la capacité d'un collaborateur dans sa tâche à lui, peut-être réfléchir de manière plus globale à la culture d'entreprise qu'on va développer autour de lui, aux différents types d'aménagements de locaux qui lui seront proposés, dans lesquels ils vont évoluer. Et ça, comme d'autres éléments, pourront finalement créer une performance qui sera plus positive. Mais on peut pas se couper de cette question un peu plus large de l'environnement. Le potager, pour prendre un exemple de permaculture qui est peut-être à la mode en ce moment en période de coronavirus, le potager, il dépend aussi des vents auxquels il est exposé, il dépend de son exposition au soleil, il dépend de l'eau qui est disponible. Et je crois que dans une entreprise, c'est la même chose. Il y a une culture qu'il faut essayer de développer avant de vouloir essayer d'instaurer une production de légumes et de ressources.
Oui, j'imagine le patron d'entreprise qui peut être un peu directif, admettons un peu ancien modèle, qui dirige son entreprise, qui gère ses collaborateurs, je fais attention au vocabulaire, et vous arrivez et vous leur dites ton entreprise c'est un peu comme un potager, faut regarder les ressources, faire confiance. Quel genre de dialogue vous avez en face de vous?
On a d'abord un dialogue qui est centré sur la préoccupation principale du patron, c'est-à-dire avoir une entreprise qui soit la plus performante possible. Et la performance, on peut l'obtenir de différentes manières, mais pour simplifier peut-être ou polariser un peu la question, il y a une performance qui peut être contrainte, c'est-à-dire on mettra en place des règles, on mettra en place des règlements, des choses pour lesquelles les collaborateurs seront plutôt contraints à faire telle et telle ou à prendre telle et telle décision. Il y a une autre manière d'arriver à une performance positive, et ce qui est vraiment la manière que nous, on essaie de développer au quotidien, c'est développer, comme disait Agnès, l'autonomie, la responsabilisation, la confiance, et laisser à l'individu finalement le choix de s'épanouir dans son travail et faire profiter l'entreprise de toutes les notions d'initiative qu'un individu pourrait prendre, à condition qu'on lui accorde au préalable un niveau de confiance suffisant. Et c'est là-dessus que la discussion s'oriente souvent. On entre un peu sur des choses peut-être qui peuvent paraître un peu clivantes, mais finalement, à la sortie de pas simplement de rendez-vous, finalement, on est tous d'accord, et le patron et nous, sur le fait que l'entreprise doit être plus performante, qu'une intervention à l'entreprise a un but et une finalité qui est tout à fait louable, qui est faire grandir l'entreprise. Et finalement, il y a simplement deux méthodes pour y arriver.
On voit tous ces jeunes qui sont dans les rues, alors plutôt avant le coronavirus, qui exigent plus de changements, qui veulent des protections pour le climat. On a eu toutes les grèves concernant l'égalité des sexes. On voit que les jeunes ont des revendications, ils ont plus d'exigences, ils veulent plus d'écologie aussi dans l'entreprise. Comment les entreprises peuvent s'adapter justement pour accueillir ces jeunes et les laisser prendre un petit peu finalement les rênes pour pouvoir développer les idées qu'ils ont envie?
C'est vrai qu'il y a aussi une question finalement à réfléchir au niveau de la culture initiale. Le coronavirus, il aura peut-être fait ressortir certaines choses de manière plus forte, mais une entreprise avait déjà une culture, et c'est pas en un claquement de doigts avec le coronavirus que tout d'un coup, par exemple, on va faire confiance à tout le monde, on va se mettre au télétravail et puis il y a tout qui va changer. Aujourd'hui, c'est pas très à la mode de dire non, nous, on fait pas de télétravail. Donc, il y a aussi beaucoup de communication de la part de certaines entreprises qui disent oui, nous, on était déjà en télétravail, on s'y met à fond avec le coronavirus. Mais si on a une culture de la peur plus qu'une culture de la confiance, par exemple, déjà initialement, ça va pas forcément être facile à mettre en place. Donc, il faut accompagner ça pour les jeunes générations, mais pas que. On segmente beaucoup les Y, les Z ont besoin de confiance. Oui, mais en fait, tout le monde a besoin de confiance. Tout le monde se développe davantage dans un sentiment de confiance et de responsabilisation.
Là, on parle en théorie. Maintenant, concrètement, un bon exemple, une bonne pratique qui peut être mise en place, pas forcément par des patrons. On se doute bien que dans l'audience cet après-midi, il y a davantage d'employés que de patrons, parce que ma foi, dans la vie, il y a davantage d'employés que de patrons. Donc, en tant qu'employé, quelle bonne pratique je peux mettre en œuvre dans mon entreprise pour viser le bonheur, l'épanouissement, ce que vous décriviez tout à l'heure?
Alors, voilà, la première chose, c'est que on est tous différents, et c'est pour ça que nous, on parle d'intelligence émotionnelle. Par exemple, quand je vais à une réunion et qu'on a peint les murs en vert parce qu'on s'est dit, ah bah tiens, ça va te détendre, on m'a mis à disposition une bulle de méditation ou ce genre d'affaires, bah si je me fais hurler dessus pendant la séance par mon patron, ça va pas fonctionner, je vais pas être performant. Si il y a tout le monde qui est antipathique et personne qui peut s'exprimer correctement, bah je vais pas me sentir bien. Donc il y a vraiment une question d'intelligence émotionnelle, et on se rend compte que quand on démissionne ou quand on se fait licencier, quand on a des problèmes au travail, souvent la racine à laquelle on peut remonter, c'est un problème de valeur. Il y a un problème de valeur et d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est pour ça que nous, notre notion de responsabilisation, c'est d'intervenir pour que chaque individu dise, bon, bah, ok, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui suis coupable, mais de quoi est-ce que moi je suis responsable? Qu'est-ce que je dégage dans une équipe?
Ça tourne tout autour de nous. Et le sol qui nous portait reçu la foudre d'un coup. Une nouvelle ère naissait.
Hier, on aurait dû le faire.
On aurait dû le faire.
Sous les cendres naissent une étincelle.
Hier,
on aurait dû le faire.
On aurait dû le faire.
Sous les cendres naissent une étincelle.
Et plus vaste t'apparaît le ciel. Mais pour le sommeil, trop de jours, de nuit, face au remords, face au regret, un dilemme dur à dilemme.
Hier, on aurait dû le faire,
on aurait dû le faire.
Sous les cendres naissent une étincelle.
Hier,
on aurait dû le faire, et ne plus attendre que sous les cendres naissent une étincelle.
C'est le réveil. En démêlant tes cheveux gris, l'espoir est devenu une neige. Sauf éternel, elle fond.
L'idéal avec Hier à l'instant sur la première.
Naviguons à vue avec Marc Muller et Jonas Schneider sur la première.
Notre invité cet après-midi, ce sont les fondateurs de DAG. Ils se soucient de bonheur au travail.
Le bonheur au travail, c'est le titre finalement de votre méthode. Mais est-ce que ça va pas un peu dans le même sens que ce que font les grandes entreprises informatiques qui ont des environnements de travail qui ressemblent beaucoup à la maison, où on a une personnalisation des objectifs, où on a des canapés, etc. On a des cafettes super sympas et c'est tout cet environnement-là. Est-ce que vous suivez ce que font ces grandes entreprises ou vous avez une autre méthode?
Alors nous, on a une méthode un peu différente. Alors on prétend pas avoir travaillé dans ces grandes entreprises. Par contre, on constate une chose, c'est qu'en matière de bien-être des collaborateurs, en matière de bonheur au travail, il y a un peu deux courants. Il y a le courant des gens qui s'attachent à développer ce qu'on appelle, nous, le glaçage du gâteau. C'est ce qui se voit depuis l'extérieur, c'est ce qui est beau, c'est ce qui attire l'œil, et c'est souvent ce que ces entreprises-là utilisent pour attirer des nouveaux collaborateurs. Et le glaçage, il est généralement symbolisé en entreprise par tous les biens matériels. C'est dans ces entreprises-là qu'on va retrouver la trottinette à l'entrée, qu'on va retrouver le mur vert qui rend tout l'open space zen. Alors que pour nous, le bien-être d'un collaborateur, il est pas essentiellement dans ce glaçage. Ce qu'on fait nous, et c'est ce qu'on fait en utilisant l'intelligence émotionnelle, c'est développer le gâteau lui-même. Et on pense que le glaçage peut devenir très amer Et cet environnement qui prône le sourire pour tous peut devenir très amer si derrière il est pas, il repose pas sur des fondations qui sont issues du respect de chacun, de la reconnaissance, de la confiance, la liberté d'innover et d'initier des projets dans l'entreprise. Ce qu'on fait nous, c'est ça, c'est développer ce gâteau sans forcément se préoccuper du glaçage, sans dire qu'il est inutile, parce que je pense qu'il peut rendre service et rendre les journées un peu plus agréables. Mais nous, notre métier, c'est développer le gâteau et développer un gâteau qui soit le plus goûtu possible pour l'intégralité des collaborateurs.
Et il y a toujours ceux qui finissent par dire « Oui, mais bon, moi, le travail, je viens pour travailler. Je viens faire 8 heures dans la journée. Que les gens tirent la gueule ou pas, ça me change pas grand-chose. Que le gâteau, pour reprendre la métaphore, soit bon ou pas, peu importe. Moi, je veux me mettre derrière mon ordinateur, travailler 8 heures et rentrer à la maison. » Il y a quand même une partie des collaborateurs qui a pas d'attente particulière par rapport à son entreprise, non ?
Oui, bah oui, c'est clair. Nous, on en rencontre régulièrement. Et puis, bah, tant que c'est vécu comme ça, mais que c'est vécu d'une manière légère, comme vous la décrivez là, bah, tant mieux. La question, c'est quand ça devient une souffrance. Et puis souvent, il y a une ligne qui est assez fine entre, bah, finalement, moi, j'ai assez de loisirs, une vie familiale qui me remplit parce que je m'épanouis d'une autre manière. Puis le travail, bah, c'est mes 8 heures par jour. Et puis, entre guillemets, je ne les sacrifie pas, mais je suis OK de faire ça comme ça. Mais tout d'un coup, la frontière peut devenir très fine. Entre, bah, finalement, je suis en train de souffrir pendant ces 8 heures, où ça commence souvent par l'ennui, ou alors une perte de sens, je ne sers plus à rien, je ne vois pas l'intérêt de ce que je fais. Et là, on est en train de passer de l'autre côté de la barrière, finalement. Donc, faut vraiment se poser la question, OK, si c'est chouette parce que j'ai d'autres avantages dans ma vie, et puis le travail n'est pas une fin en soi pour moi, bah là, c'est OK. Ou éviter la souffrance au travail, parce que finalement, travailler en permaculture, dans les organisations, c'est aussi pour éviter la souffrance au travail. C'est pas que pour développer le bien-être.
Et d'ailleurs à ce sujet, c'est vrai que nous, on a été interpellés par le taux d'adhésion des Suisses au télétravail et ça questionne sur l'environnement de travail dans lequel ils évoluaient avant d'être forcés, entre guillemets, à faire du télétravail.
Il y a une question à se poser, si le télétravail devient une délivrance. C'est-à-dire, OK, si pour moi, le télétravail, tout d'un coup, c'est la délivrance. On a rencontré plusieurs collaborateurs comme ça qui disaient, mais c'est enfin, on me fait confiance, je peux travailler depuis chez moi, je peux faire ce que je veux. Et puis, en plus, je suis quand même productif. Je travaille 5 heures au lieu de 8, personne ne le sait. Mais tu sais quoi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mais la question, on doit se la poser quand même. Parce que si le télétravail est une délivrance, qu'en est-il de mon environnement de travail ?
Est-ce que le plan secret de toutes celles et ceux qui s'intéressent au bien-être de leurs employés, ce ne serait pas de les faire travailler davantage ? On parlait des 8 heures, la loi sur le travail en Suisse est assez souple, on peut augmenter ces 8 heures de travail par exemple. Est-ce que le but, en mettant des bureaux très accueillants, très agréables, ce n'est pas justement qu'ils passent un peu plus de temps, qu'ils traînent, qu'ils restent faire un apéro, que du coup ils finissent à 19h30 plutôt que 16h ?
Et donc, exactement, et c'était un des prémices vraiment de toutes ces notions de bien-être au travail en termes de com et vraiment de marketing artificiel, entre guillemets. Au tout début, si je me trompe pas, c'est, je sais pas, vous rappelez peut-être des BlackBerry. BlackBerry avait lancé BlackBerry Messenger, gratuit de BlackBerry à BlackBerry. C'était super génial, c'était gratuit. Mais l'objectif était assez clair, c'est que si moi j'ai un BlackBerry, je travaille chez BlackBerry, toi aussi. Et c'est là toute la différence entre le gâteau et le glaçage. Je veux dire, bah, qu'est-ce qu'on fait pour au maximum presser les gens comme des citrons? Ou alors, qu'est-ce qu'on fait pour développer un réel sentiment d'épanouissement et de bien-être? Parce qu'aujourd'hui, quand même, grâce à certaines études, on sait que ça a une influence sur la performance. Mais il faut pas se leurrer et rendre ça bisounours. Il faut être conscient qu'une entreprise, si elle est une entreprise, bah, elle a quand même comme intérêt d'être performant.
On a cité un peu les bons exemples, hein. Par exemple, ces entreprises américaines. Est-ce qu'il y aurait un mauvais exemple le type d'entreprise qui vraiment fait tout faux?
C'est une bonne question. Je suis pas sûr que les entreprises américaines soient forcément un bon exemple.
Non, je disais pas toutes les entreprises américaines. C'est sûr qu'il y a des faux, mais cette manière de travailler un peu à l'américaine, avec des zones de détente dans le bureau, etc. Ça, vous trouvez que c'est pas une bonne idée?
Pour moi, l'entreprise qui fait tout juste, c'est l'entreprise qui se remet en question constamment. Donc, en fait, personne ne va faire tout juste. Enfin, c'est comme l'individu. C'est comme si on se dit, bah, alors lequel d'entre nous est le plus développé personnellement, a le plus avancé dans son évolution personnelle? Bah, ni vous ni moi, finalement. On est constamment en train de se remettre en question et puis d'apprendre de nos échecs. Je pense que c'est ça. L'entreprise qui veut avoir l'air parfaite, à la Google, qui affiche un papier glacé fantastique avec des trottinettes de gauche, de droite, à mon sens, elle est tout sauf parfaite, parce que d'abord, il y aura autant d'opinions là-dessus qu'il y aura d'individus qui vont la vivre. Il y a des gens, par exemple, tous les systèmes comme l'holacratie, etc., ça convient pas du tout à tout le monde.
On entend souvent dire de gens qui aimeraient faire plus pour l'écologie ou plus pour la transition énergétique, se disent « Ah, mais je suis dans des entreprises et puis de toute façon, je peux rien faire, je peux pas proposer, c'est pas moi qui décide. » Est-ce que dans une entreprise qui tiendrait plus compte du bien-être au travail, qui intégrerait plus les potentiels de ses employés, on pourrait imaginer que spontanément ou naturellement, ce seraient des entreprises qui iraient en direction de la transition?
Je crois que c'est des... C'est possible. Alors moi, on n'a pas d'études ou de témoignages qui pourraient mettre ça en évidence, mais je pense que là, il y a quand même un lien assez étroit, effectivement. Et je suis pas surpris que ce soit Marc Müller qui le sous-tend. Je pense en effet qu'il y a sur la notion de responsabilisation et l'encouragement à la responsabilisation en entreprise. Je pense effectivement que dans l'époque dans laquelle on vit, cette notion de responsabilisation, elle prend un versant, ou en tout cas une couleur assez écologique. Ouais. Je crois que quand on a des employés, des collaborateurs qui sont responsables, eh ben peut-être qu'il n'y a plus besoin de mettre en bas de chaque signature email « Merci de ne pas imprimer cet email ». Je pense qu'il y a d'autres manières de faire passer la cause que par une règle de plus et un règlement de plus qui est affiché sur chacun des emails qu'on s'envoie au sein de l'entreprise et qui va justement dans ce sens-là, de dire ben, « On a des personnes responsables ». Je crois qu'aujourd'hui, il est difficile de remettre en cause cette notion de réchauffement climatique et du coup, on encourage nos collaborateurs à le faire, mais avec toujours l'autonomie nécessaire et la place pour l'innovation pour chacun des collaborateurs présents dans l'entreprise.
Vu que le cordonnier est toujours mal chaussé, c'est la catastrophe de travailler avec vous.
Complètement, catastrophe. On travaille tous les jours, on se fait pas confiance.
On a un règlement personnel qui est à la taille d'une Bible. Exactement.
Non, mais vous arrivez à appliquer tout ce que vous expliquez, conseillez à vos clients entreprises?
Alors, oui et non, et je pense que le cordonnier le plus mal chaussé, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense aussi que c'est pas pour rien qu'on fait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à créer DAG et à mettre en place les formations et les workshops qu'on a mis en place, aussi de par ce qu'on a vécu, nous, en tant qu'employés à l'époque, et de par ce qui nous a inspirés, mais aussi ce qui nous a manqué.
Donc vous êtes parmi les rares employés qui ont quitté une bonne situation pour aller se mettre à leur compte, pour développer leurs idées, et puis avoir le courage de développer leur entreprise dans le but justement de générer de la transition.
C'est ça, n'en déplaise à ma maman. Ouais, je crois que chacun, ce qui est intéressant, je crois que c'est que autant Agnès que moi, on a deux parcours qui sont radicalement différents l'un de l'autre, et pour autant, on s'est retrouvé sur une forme de consensus bien suisse sur les besoins nécessaires, les besoins en tout cas du monde du travail et les besoins de changement du monde du travail et des entreprises. Et en effet, je pense que cette prise de risque, ou en tout cas cette envie de changer un peu notre environnement, il naît d'expériences dans lesquelles on a peut-être pas été totalement à notre aise et on aurait souhaité être un peu différente. Ouais.
Je pense qu'on a vu aussi la perte. Les deux, on aime la performance et l'efficience. Et je pense qu'on a vu la perte d'efficacité qui se faisait ronger et envahir par certains systèmes complètement chronophages et inutiles. Et DAG est peut-être né le jour où Damien, du haut de son poste merveilleusement fantastique, m'a dit un jour, tu sais, moi, ce que je veux faire, c'est aller à l'alpage, faire du fromage et puis élever des vaches. Et qu'il est parti tout un été faire du fromage à l'alpage. On s'est dit, bah ouais, il y a peut-être quelque chose à repenser.
Ben merci Agnès et Damien. C'était d'autant plus précieux de vous entendre à ce moment-là de la journée, hein, presque 17h. Celles et ceux qui sont en train de rentrer à la maison en se disant, ouf, vivement que j'arrive à la maison et que je sois loin du bureau, peut-être que ça permettra d'enclencher une réflexion. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à vous. Merci.
Zamana lebra tour, lebra winga. Zamana lebra tour, lebra winga. Parne si la lebra nenebe Bine baba lebra nenebe We'll be right back. tape qu'à l'ébéa. Je me tape qu'à l'ébéa. L'arme tape qu'à l'ébéa. Les bras pour table à sam taba. Les bras n'a pas table à sam taba. Parle si la les bras n'est nebe. Bine baba les bras n'est nebe. Zamana les bras tour, les bras winga.
Zamana
le bra winga le bra tu.
Zamana le bra winga le bra tu.
Zamana le bra tu le bra winga.
Zamana le bra tu le bra winga.
Zamana le bra winga le bra tu.
Jacob Salem et Somme Kieta à l'instant sur la première avec Pajan et Sida.
La vie qu'on a vue.
Marc.
On a parlé cette dernière demi-heure d'avoir du plaisir au travail pour être bien intégré dans une organisation. Eh ben, faisons vite le contraire pour regarder ceux qui en ont manifestement plus et qui démissionnent. Pourquoi est-ce qu'ils démissionnent? Bon, alors on trouve de tout à ce sujet, mais plusieurs arguments reviennent sur la table. Par exemple, mauvaise entente avec les supérieurs, pas d'implication possible sur les décisions, meilleur working-life balance, pas d'objectif clair. Eh ben, si on reprend ces arguments, on se rend compte qu'ils sont tous émotionnels. Mauvaise entente avec les supérieurs, ça, c'est relationnel, émotionnel. Pas d'implication possible sur les décisions, je me sens pas valorisé, c'est émotionnel. Meilleur working-life balance, j'aimerais avoir un équilibre avec le travail et la vie privée, on m'écoute pas, c'est aussi émotionnel. Objectif clair, c'est aussi émotionnel, j'aimerais pouvoir travailler dans une direction qui me plaît et qui me convient et qui est partagée. En fait, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que d'abord, ça montre qu'on n'est pas des machines. Et ensuite, que rendre nos émotions positives sur le lieu du travail, ça coûte pas beaucoup d'argent aux entreprises, aux administrations. Il n'y a donc aucune raison financière pour ne pas le faire. Et comme tout ce qu'on a discuté dans cette émission depuis 3 mois, souvent, il s'agit surtout d'avoir envie de se mettre en route pour la transition. Et le reste, ça se fait presque tout seul.
Naviguons à vue s'arrête un instant pour cette information routière.
Infotrafic RTS
avec AXA, votre assurance auto et son drive partner aux fonctions intelligentes, AXA.ch.
De forts ralentissements sont signalés sur les tronçons suivants. Sur l'autoroute Lausanne-Pontarlier entre Les Clés et la douane de Valorbe en direction de Pontarlier. Sur le contournement de Genève entre Mérin et le tunnel de Vernier ainsi qu'entre l'échangeur de Perly et la douane de Bardonnay, tout cela en direction de la France. Sur l'axe Lucerne-Chiasso en bouchon de 2 km s'étend entre Vassennes et le portail nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin, ce qui correspond à une attente d'une demi-heure environ.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Et c'est ainsi que se termine cette semaine de Naviguons à vue et même cette saison éphémère de Naviguons à vue, une émission qu'on a créée ensemble pour se poser les questions du redémarrage après la crise sanitaire. Puisque dès les premiers jours, tout le monde a dit il ne faut pas redémarrer de la même manière, il faut démarrer différemment. Mais c'est ce différemment qu'on a questionné ensemble durant ces quelques mois. J'espère qu'on pourra vous retrouver à la rentrée dans les mêmes horaires, 16h30-17h, avec une émission où nous pourrons sortir, aller à la rencontre de celles et ceux qui nous proposent des solutions enthousiasmante pour l'avenir. D'ici là, passez un bel été et dans un instant, écoutez bien Vertigo pour vous renseigner sur l'actualité culturelle.
Naviguons à vue avec Chauffer Renouvelable, le programme de Suisse Énergie.
La première vous offre l'heure.
Les infos, il est 17h.